Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce jour nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ est confronté à l'incompréhension, à l'hostilité, et si vous avez bien suivi toutes les messes pendant ce carême, l'Église, dans sa liturgie, prévoit justement de faire monter un peu cette tension entre Jésus et les pharisiens, comme ça a été le cas des débuts de la vie publique de notre Seigneur jusqu'à cette heure ultime de sa passion. Ce n'est pas la première fois qu'il est rejeté violemment. Ici, notre Seigneur enseigne dans le temple, comme nous le rappelle l'apôtre Saint Jean à la fin de cet évangile. Il parle avec une clarté divine et on l'accuse d'être possédé par un démon, d'être un samaritain. Il proclame sa divinité et on veut le lapider. C'est ça la réalité. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ s'échappe. Il passe au milieu d'eux et il s'en va. Donc déjà, on voit l'autorité, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ et le fait que le moment venu, quand il donnera sa vie, c'est qu'il voudra la donner. Quand il sera appréhendé par les sbires du temple des pharisiens, eh bien, c'est qu'il le voudra bien. N'oublions pas cette réalité. C'est un passage saisissant. Nous voyons notre Seigneur, la vérité, en personne, qui est rejeté. Et il faut bien comprendre que ce rejet, ce n'est pas un épisode seulement du passé. C'est même un mystère dans lequel nous sommes nous-mêmes obligés à entrer. Donc voyons d'abord les caractéristiques du rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est rejeté parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité sur ce qu'est le Messie, sur ce qu'est sa mission. Il est la vérité lui-même. Il ne fuit pas les oppositions pendant ces 3 années de vie publique d'apostolat. Il est confronté soit à des interrogations de bonne volonté même, ou un peu moqueuses. On avait eu cet épisode de la Samaritaine, justement, que notre Seigneur provoque lui-même et qui s'interroge sur le Messie, sur la légitimité de la religion mêlée de paganisme des Samaritains. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dédaigne pas de répondre à ces interrogations, et dans toutes les autres occasions, à chaque fois on le voit interrogé par des pharisiens, par des docteurs de la loi, etc. Systématiquement, il va répondre. Donc, ces personnes ont pu l'interroger, ont pu connaître sa doctrine, ont pu voir également ces miracles qui viennent attester de sa doctrine. Et notre Seigneur le dit également. Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Nous avons vu cette belle histoire de l'aveugle né, cet aveugle qui dit justement, interrogé par ces pharisiens, il leur dit, mais quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas faire un tel miracle, c'est tout. Mais pourtant, ils ne veulent pas croire. Notre Seigneur fait tout ce qu'il faut, si on peut dire. C'est normal, bien sûr, c'est notre Seigneur. En même temps, il n'est pas neutre. On pourrait dire, oui, il faut présenter la vérité de façon gentille, douce, etc. Vous savez, tout le jargon qu'on entend aujourd'hui de la part des modernistes. Pourtant, notre Seigneur parle avec autorité. Les pharisiens, nous l'avons vu ici, il leur dit qu'ils sont des menteurs. À un autre endroit, il leur dit « Vous avez pour père le diable ». Il les traite de race de vipères, de sépulcres blanchis. Il les maudit même. Maudit soyez-vous, pharisiens, etc. Ces épisodes de l'évangile montrent l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette autorité, même quand il parle durement aux pharisiens, n'est pas une expression de haine. Il ne faut pas le voir de cette manière. C'est pour réveiller ces âmes. C'est pour les faire réfléchir, les faire revenir sur eux-mêmes, se remettre en question. De même, quand il leur dit aujourd'hui, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les vrais fils d'Abraham doivent reconnaître le Messie, tout simplement. Mais eux, ils ne sont pas des véritables fils d'Abraham et ils ne reconnaissent pas le Messie. Le langage de notre Seigneur Jésus-Christ est donc clair et malheureusement, il suscite le rejet. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que il y a des mauvaises dispositions dans le cœur. Ce n'est pas une question d'intelligence cette fois-ci. Les pharisiens, les docteurs, ils connaissent bien les prophéties, etc. Quand il s'agit de discuter sur le lieu de la naissance de notre Seigneur, quand les rois mages débarquent à Jérusalem, ils savent dire que c'est effectivement à Bethléem que le Messie doit naître, etc. Donc ils connaissent bien toutes ces prophéties. Malheureusement, ils ne veulent pas de la réalité. Ils se sont fabriqués une image du Messie. Une image du Messie qui est fausse. Une image du Messie qui serait un sauveur temporel. Un sauveur conquérant. Qui établirait leur royaume, leur domination à eux, pharisiens, sur toute la terre. C'est ça la mentalité à laquelle est opposé notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas ça le Messie. Et donc, leur cœur est mal disposé. Il est mal disposé parce que leur cœur est orgueilleux, parce que leur cœur n'est pas dans un état d'esprit surnaturel. Il est dans un état d'esprit temporel, de domination des autres, etc. Il ne veut pas, finalement, du salut par le Messie, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cet endurcissement, et c'est malheureusement cela, mes bien chers frères, qui entraîne ce rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur ne répond pas par la violence. Notons-le. Il s'en va. Il ne poursuit même pas la discussion, il voit que c'est inutile. Il a été clair sur sa mission, il a été clair sur sa nature. Il n'est pas seulement homme, mais il est Dieu. Avant qu'Abraham fût « Je suis »,« Ego sum »,« Yahvé », c'est le nom propre que Dieu se donne dans le buisson ardent à Moïse. Donc, c'est sans équivoque. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, il est Dieu, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu incarné. Preuve, bien entendu, du mystère de la Sainte Trinité. Il continue à dire la vérité, elle est rejetée, et bien voilà, il s'en va. Nous sommes appelés, vous le savez, mes bien chers frères, à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont contredit, ils vous contrediront aussi. Vous serez poursuivis, dit-il à ses disciples. Vous serez chassés des synagogues. Vous serez peut-être même lapidés, comme on le voit avec saint Étienne, le premier martyr. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce rejet fait partie de la vie chrétienne. Si nous voulons être fidèles à l'Évangile, si nous refusons les compromis avec le monde, nous serons en butte à la contradiction, à la contrariété, au rejet. non seulement de la part du monde en général, mais même parfois dans nos familles. Nous serons peut-être aussi méprisés, moqués par nos amis, nos connaissances, collègues de travail, etc. Cela fait partie du programme chrétien, parce que nous devons être conformes à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces moments spécifiques de contrariété, de contradiction, la question est comment allons-nous réagir ? Parce que malheureusement, nous pouvons réagir mal. Et c'est assez logique, assez humain. Le rejet fait peur. Le fait d'être mis de côté, ça fait peur. Et c'est pas normal d'être mis de côté même dans la société, puisque la société humaine est censée faire un tout organique et organisé, ordonné, mais ordonné bien évidemment à Dieu. On pourrait répondre par l'amertume envers ceux qui nous rejettent, qui nous persécutent, la plainte, le repli, se mettre complètement de côté, sortir carrément de la société humaine pour être tranquille, pour pratiquer notre petite religion tranquille. Pourtant, ce n'est pas ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que font les chrétiens. On pourrait être tenté également de se taire dans l'autre sens, de se compromettre, de ne plus affirmer la vérité pour éviter ce rejet, pour rester bien intégré dans cette société, chercher à ne pas être marginalisé. C'est aussi une tentation dans l'autre sens, et malheureusement, c'était l'état d'esprit, et c'est l'état d'esprit qui prédomine aujourd'hui au niveau officiel. On ne veut pas être rejeté du monde, donc on n'affirme plus les principes de l'Évangile de façon claire, soi-disant au nom de la paix entre les peuples, les nations. On ne veut plus affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qu'il n'y a qu'une seule véritable religion, que les autres religions sont fausses, sont des inventions du diable, que pour être sauvé, il faut adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ. « Celui qui n'est pas avec moi, nous disait-il il n'y a pas très longtemps, est contre moi. » C'est la réalité. Nous sommes confrontés à un choix. Et ce choix de notre Seigneur Jésus-Christ crée effectivement le rejet éventuel de la société. Par la société, donc nous serons malheureusement mis de côté, persécutés, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons réagir différemment. Être rejeté, c'est être conformé au Christ. Et donc, il faut réagir comme le Christ, avec cette fermeté, cette clarté dans la confession de notre foi, avec cette fermeté dans la pratique de notre foi, qui est aussi un grand témoignage pour ce monde. Ne pas compromettre notre pratique pour des raisons qui seraient mondaines, qui ne seraient pas du Christ, même simplement pour avoir la paix. Cela n'est pas selon l'Évangile. Mais en même temps, il faut faire preuve de cette patience, de cette douceur, mes bien chers frères, dont fait preuve évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, prier pour nos persécuteurs. Donc le rejet est effectivement un chemin d'union à notre Seigneur, ça nous permet d'être plus conformes à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est l'esprit de ce temps de la Passion. Mais il y a une chose dont nous devons absolument nous garder, parce que c'est malheureusement un travers qui peut nous guetter. Il ne s'agit pas de chercher ce rejet. Il s'agit de l'accepter. C'est une réalité. Il faut éviter un piège subtil. Le rejet que connaît le chrétien, c'est pas une médaille que nous recherchons. Ce n'est pas une preuve automatique de vérité. Puisque nous sommes rejetés, c'est que nous sommes dans le vrai. Non ! Nous ne cherchons pas à être rejetés, comme si cela seul garantissait notre fidélité au Christ. Ce serait une perversion de la croix. Non plus l'aimer comme un signe d'union à notre Seigneur, mais la rechercher comme une marque d'élection. Il y a aujourd'hui, je le répète, cette tentation spirituelle. Et on voit que, malheureusement, un bon nombre de fidèles n'y échappent pas. Cette tentation de se construire en opposition systématique, non plus en disciple de la vérité, mais en partisan de la contradiction. Puisque le monde dit ceci, c'est que c'est faux, il faut dire le contraire. Puisque le monde, même sur des choses absurdes, inutiles pour notre salut, puisque le monde dit que la terre est sphérique, la terre est plate. Par exemple, au hasard. Et malheureusement, un bon nombre de chrétiens se construisent de cette manière, en opposition, en contradiction systématique. Et forcément, on les traite d'idiotes dans ce cas-là, d'imbéciles. Et eux, ça les renforce. Ah oui, nous sommes des imbéciles, des idiots, nous sommes rejetés, donc nous sommes dans la vérité. C'est faux, c'est pas ça, être disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça. Rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, adhérer à la croix, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai chrétien ne provoque pas le rejet. Notre Seigneur ne provoque pas le rejet. Ceux qui le rejettent parce qu'ils ont déjà des mauvaises dispositions. Alors, les dispositions, évidemment, plus grave des pharisiens, mais il y en a d'autres qui l'abandonnent parce que ils estiment que ce qu'il dit est trop dur. Donc, nous ne provoquons pas et nous ne devons pas chercher à provoquer. Nous acceptons simplement de vivre rejetés éventuellement si c'est le prix à payer pour être fidèle à la vérité, fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, pas fidèle à des fables ou à des choses qui ne font pas partie de la foi ou à des choses qui ne sont même pas vérités. Donc, on ne doit pas s'identifier comme celui que le monde rejette, mais comme celui qui cherche la vérité dans l'humilité, même au prix de l'incompréhension. Le Christ n'a jamais cherché la persécution, il a cherché les âmes. Et c'est pour cela qu'il a été persécuté. À sa suite, nous ne devons pas confondre le rejet de la vérité, avec la vérité, mais être prêt à être rejeté à cause de la vérité. Voilà, mes bien chers frères, une des clés de ce temps de la passion qui nous est donnée aujourd'hui par l'Évangile. Le Christ connaît l'humiliation, l'accusation injuste, la solitude. Il est rejeté par les siens, abandonné de presque tous, même ses apôtres. Qui reste-t-il au moment ultime, quand il doit prendre, porter sa croix, quand il doit être crucifié? Il ne reste pas grand monde, les saintes femmes, saint Jean, peu de monde pour partager cette humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il ne fuit pas. Et non, il ne fuit pas, mais il ne durcit pas son cœur. Il n'insulte pas ceux qui le persécutent. Il agit avec patience, avec bonté, avec amour. Il aime jusqu'au bout, comme nous le dira encore saint Jean. Il les a aimés jusqu'à la fin. Non seulement ses disciples, non seulement ses âmes qui vont répondre parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en voyant ses souffrances, en voyant qu'il s'est donné à eux. Mais il meurt aussi en pardonnant à ses bourreaux, en demandant à son père de les épargner. Donc, nous devons nous conformer à cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de la Passion nous apprend à vivre cette réalité du rejet avec lui, non pas comme une défaite, mais comme une participation à sa victoire. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour fidèle dans la souffrance. La souffrance, la Passion de notre Seigneur, c'est un moyen. Certains peuvent souffrir, mais mal, sans amour. Être rejeté du monde, mais sans véritablement adhérer avec amour à notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour leurs persécuteurs, en faisant pénitence pour eux. Donc, la souffrance, on peut mal la vivre, pas en chrétien. Le temps de la Passion, c'est pour nous aider à la vivre correctement. Et donc à être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ dans la souffrance, à continuer d'aimer même ceux qui nous rejettent, d'aimer même ceux qui nous persécutent, à leur vouloir tout le bien que notre Seigneur Jésus-Christ leur a voulu, à leur vouloir tout le bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous a voulu, alors que à chaque péché grave, nous devenons ses ennemis aussi. Nous le persécutons aussi. Donc, mes bien chers frères, cherchons à nous conformer à cela. Et ne cherchons pas, bien entendu, à être rejetés en tant que tels. Ce serait une fausse croix, une vérité détournée. Le chrétien, je le répète parce que c'est important, ne provoque pas la contradiction. Il accepte d'y rester fidèle s'il le faut. Ce n'est pas le rejet qui fait la vérité, mais c'est la vérité qui parfois attire le rejet. Demandons donc cette grâce d'être fidèles et doux quand nous sommes rejetés, de ne pas répondre à l'injustice par l'aigreur, mais de choisir comme lui, comme notre Seigneur, d'aimer jusqu'au bout. C'est là que se trouve la vraie force, la vraie lumière, la vraie croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.